l'avez lu ?
Oui, il est disponible.
Vous en avez d'autres de cet auteur ?
Je cherche un jeu amusant.
J'ai beaucoup aimé ce livre.
Bonjour !
Je peux en prendre combien ?
Mais la règle est trop longue.
C'est un ami qui me l'a conseillé.
J'ai adoré ce film.
Ça se passe comment pour s'inscrire ?
Quand est-ce qu'il y aura une soirée jeu ?
C'est un jeu de rôle. Vous l'avez ?
Vous pouvez me le prolonger ?
C'est super tout ce que vous avez. Il existe des jeux pour seniors ?
Zeste de culture, l'émission de l'équipe des médiathèques Chalosse-Tursan. On vous sert un cocktail vitaminé de livres, musique, films et jeux. Et vous invite à la retrouver lors de ses animations tout au long de l'année. À l'antenne aujourd'hui, Anne-Laure, Christelle, Patricia, Camille et Viviane pour vous proposer leurs coups de cœur et animations du mois. La sélection livres.
Alors le livre dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui s'appelle « La part du héros » et a été écrit par Andrea Marcolongo. Alors un petit peu de présentation de son auteur. C'est une jeune, très jeune auteure de formation classique. Dans son précédent livre qui s'appelait « La langue géniale », elle a exprimé d'une façon très vivante non seulement son amour pour le grec ancien, sa beauté, son charme, mais aussi à quel point les traces laissées par le monde grec sont profondes et restent riches pour notre monde d'aujourd'hui. Et le livre est très rapidement devenu un phénomène, vendu à plus de 300 000 exemplaires. Donc il a rencontré un très large public, c'est ça qui m'importe. Alors, la part du héros, donc, ou le mythe des Argonautes et le courage d'aimer. Dans ce texte, elle continue à explorer les thèmes qui lui sont chers et se penche cette fois-ci sur la figure du héros. Elle choisit Jason et sa quête de la Toison d'Or, et met en parallèle le voyage de Jason et de ses compagnons, leurs aventures, les épreuves qu'ils affrontent, les doutes qui les assaillent, les rencontres, et le cheminement de chacun vers l'âge adulte et la maturité. Son style est clair, agréable, elle réussit à nous faire partager le plaisir et l'intérêt qu'elle éprouve pour cette culture et cette langue. Alors, je lui laisse la parole un petit peu pour parler de son livre. Écrire sur un mythe, ça n'est pas forcément écrire sur le passé, bien au contraire. La part du héros, je l'ai écrit comme un appel au présent. Où voulons-nous aller ? Qu'est-ce que l'on veut être ? À notre époque où règne la compétition perpétuelle, l'angoisse de la prestation et l'obligation de la perfection, où nous avons peur de l'autre parce que nous ne savons plus qui nous sommes, j'ai tâché de demander directement aux Argonautes les réponses aux innombrables questions que notre époque nous impose. Jason et ses compagnons de route sont humains dans leurs faiblesses, leurs imperfections et donc héroïques, en ne renonçant jamais à leur objectif. Comparés à Ulysse ou à Hector, ils sont fragiles, et toutefois peut-être plus forts, parce que leurs travaux ne sont pas dictés par la guerre ni la vengeance, mais par le besoin de se mettre avant tout eux-mêmes à l'épreuve, en un voyage qui n'est pas seulement géographique, mais est surtout un parcours intérieur. Alors je ne résiste pas à l'envie de vous faire découvrir un fragment d'une des aventures de Jason et de ses compagnons. « Aux premières lueurs, les Argonautes virent s'élever devant eux majestueux le mont Athos, qui projetait son ombre sur toutes les îles alentour. Ils naviguèrent tout le jour durant, poussés par des courants généreux, et lorsqu'au crépuscule le vent se tut, ils accostèrent sur l'île de Lemnos, au nord de la mer Égée, sur la route qui les dirigeait vers le Bosphore. Comment vivre sans amour ? Comme sur l'île de Lemnos, toute de roches, et dont les sentiments avaient été exclus. Depuis longtemps, plus personne sur cette île ne pouvait tomber amoureux, depuis que plus personne ne le voulait, car aimer vraiment exige un engagement considérable. » Aphrodite était en colère contre ses habitants parce que, trop absorbé par la routine de leurs affaires quotidiennes, il l'avait oublié et il l'avait privé du respect et des honneurs qui lui étaient dus. Sur l'île, tout s'était réduit aux habitudes, aux tâches pratiques à exécuter, les choses à faire avant d'aller se coucher le soir fatigué. Le temps à Lemnos était un temps sans surprise et sans inconnu, d'où l'affection avait été bannie. Un malheur terrible, brutal, s'était alors abattu sur l'île. Les hommes, las d'aimer leurs propres femmes et de chérir leurs propres filles, étaient en proie à des pulsions violentes et irrationnelles qui les poussaient à enlever les femmes étrangères sur les côtes face à l'île, comme s'il s'agissait d'un butin, d'une marchandise sans âme. Les femmes de Lemnos décidèrent alors d'exterminer tout le genre masculin, afin d'être enfin délivrées des humiliations continues et de la négligence de leurs propres fils, pères et maris. Elles n'avaient certainement pas besoin d'eux, pensait-elle. Elles étaient parfaitement capables de conduire les troupeaux de bœufs, de moutons, de labourer les champs et même de se préparer à la guerre. Au lieu d'essayer de récupérer l'amour perdu, ces femmes préférèrent y renoncer pour toujours, tuant de leurs propres mains ceux qu'elles avaient aimés ou qu'elles auraient pu aimer. Elles pensaient vivre en sécurité sans amour. Mais chaque jour passé ne faisait qu'accroître leur insécurité. C'est ce qui arrive lorsqu'on cache les dangers sous le tapis au lieu de s'y confronter. Lorsque Argo, le navire, accosta sur le rivage, les femmes, armées de pied en cap, se précipitèrent pour voir qui étaient ces inconnus débarqués sur leur île et quelles étaient leurs intentions. Voilà, pour connaître la suite, il faut lire le livre. Alors, ce qui m'a frappé dans cette démarche, dans cet étrange voyage dans le temps, c'est la permanence des grands thèmes humains à travers des époques et des cultures terriblement différentes. Et puis ce qui m'a touchée aussi, c'est qu'elle évoque à plusieurs reprises son propre parcours, les périodes difficiles qu'elle a traversées, les forces qu'elle en a tirées, les changements dans sa vie. Et il y a d'ailleurs un passage très intéressant dans lequel elle développe l'importance de l'échec. Elle reprend le sens du mot « faillir ». Nous sommes au monde pour toucher et pour nous relever, pour tomber, pardon, et pour nous relever ensuite. La véritable faillite est le contraire. Faillir ne signifie pas ne jamais trébucher, mais rester délibérément à terre. Voilà, pour conclure, c'est une lecture extrêmement vivante, jamais ennuyeuse, et un dialogue permanent entre mythologie et XXIe siècle, dans lequel elle nous parle de nous, de l'intensité de vivre et de la nécessité d'aimer. Alors, pour suivre cet intermède, je vais vous proposer une chanson d'une chanteuse grecque qui s'appelle Angélique Ionatos. Le titre, c'est « Omorphi que patrida » et ça s'appelle « Belle et étrange patrie ».
Belle et étrange patrie, comme celle que j'ai reçue, jamais je n'ai vue. Elle lance les filets et c'est des oiseaux qu'elle attrape. Elle dresse des bateaux sur terre et des jardins sur l'eau, belle. Elle se saisit d'une pierre, aussitôt l'abandonne, fémine de la tailler, et des miracles naissent, belle, étrange patrie. Avec une petite barque, elle atteint des océans, elle cherche des révoltes, réclame des tyrans, belle.
Je vais vous présenter un album documentaire jeunesse, aux éditions Amatera, paru en 2018, écrit et illustré par Teresa Vostradovska. Les illustrations de ce livre m'ont fait penser au dessin animé de la petite taupe, je ne sais pas si vous connaissez. Et j'étais persuadée que c'était effectivement du même auteur. Eh bien non. Mais il y a bien là un point commun, ces deux auteurs sont tchécoslovaques. Pourquoi j'ai aimé ce livre et pourquoi je vous le conseille? Eh bien, ça peut être un très beau cadeau pour Noël, par exemple, à offrir à un enfant curieux de la nature. Ce livre permet à la fois de s'émerveiller, se questionner, apprendre. C'est un livre scientifique avec des notions simples mais justes. Il permet d'expérimenter. C'est un livre qui propose des activités comme faire un herbier, attraper des insectes. C'est un superbe album documentaire, ludique et intéressant avec des illustrations simples, douces et belles. C'est un livre qui invite à une lecture complice et il faut prévoir des heures de lecture, d'observation et de questions. C'est un livre qui encourage les sorties dans la nature pour explorer à son tour, pour rapporter des trésors, des feuilles, des plumes. Alors, de quoi ça parle? Ravuka est une petite souris. Elle vit dans un terrier qu'elle a aménagé avec tout le confort des humains. Un fauteuil, une table, une étagère avec des livres. Et dans la première page, on la voit, le sourire aux lèvres, en train de lire un très grand livre. Un jour, Ravuka est plongée dans un article sur les pôles magnétiques quand une racine perce le plafond de son terrier. D'où viennent toutes ces racines? Se demande Ravuka. À la fin de l'été, mes tantes viendront de la ville pour me rendre visite. Et si elle me pose la question, je ne saurais pas répondre. Ce qu'il me faudrait, c'est un livre sur la nature, avec de belles illustrations. Ravuka réfléchit. Et si j'observe ce qui se passe autour de mon terrier, je pourrais noter ce que j'ai vu et les dessiner. Je ferais ma propre encyclopédie. Voilà une belle idée, Quintel gaiement. Et hop, elle se faufile hors de son terrier. Ravuka explore quatre lieux. Tout d'abord près de son terrier, puis dans la forêt, au bord de l'étang et enfin dans le jardin potager. Et c'est à chaque fois une lecture agréable. L'illustration prend beaucoup de place Et la narration permet de suivre la souris dans ses questionnements et de chercher la réponse dans l'illustration. Rien n'est laissé au hasard. La typographie est variée pour différencier la narration, l'explication scientifique, les dialogues des animaux, les jeux. L'illustration est à la fois esthétique et poétique, mais aussi au plus près de la réalité, hein, dont ce gage scientifique dont je vous parlais au début. Et de par ces illustrations et la sympathie dégagée par Ravuka, cela donne une ambiance calme et posée, propice à l'exploration. Et en prolongement du livre, il y a un petit bonus. En plus des sorties dans la nature suscitées par le livre et des activités à faire avec son enfant, l'auteur Teresa Vostradovska a créé une application qui s'appelle Aniscience. C'est une application gratuite où on retrouve Ravuka dans son terrier. Et c'est l'enfant qui, avec son doigt, promène Ravuka à la découverte de la faune et de la flore. Alors que ce soit avec le livre ou la tablette, je vous garantis une promenade bien agréable. Je vous recommande Ravuka, la souris scientifique, aux éditions Amatera de Teresa Vostradovska. Et pour aller un petit peu dans l'ambiance de ce livre Ravuka, je vous propose d'écouter Jazzo, où nous allons entendre le morceau du ver de terre. La sélection jeu.
Je vous présente qui perd gagne. Paire s'écrivant P-A-I-R-E, car le but du jeu sera d'associer ces cartes deux par deux. C'est un jeu d'ambiance pour 3 à 8 joueurs à partir de 10 ans. Un jeu de Stephen Glenn, édité par le Scorpion Masqué. Au niveau du matériel, nous trouvons un paquet de cartes illustrées par des photos, des tuiles numérotées de 1 à 11. Nous avons également un sablier, 8 paquets de cartes de couleurs différentes, 8 crayons ainsi qu'un bloc de score. Pour la mise en place, chaque joueur prend un paquet de cartes de même couleur, une feuille de score et un crayon. Le sablier est placé sur le côté ainsi que la pile d'images. Le jeu va se dérouler en 4 manches durant lesquelles les joueurs vont devoir faire des associations d'idées, mais surtout faire des paires qui soient identiques aux paires formées par les autres joueurs. Car plus vous aurez 2 paires identiques aux autres, plus vous marquerez de points. Au début de chaque manche, on dispose d'une image au-dessous de chaque tuile numérotée en les prenant au hasard dans la pile. Lorsque tout le monde a bien identifié les images, on retourne le sablier. Durant ce temps, chaque joueur prend son paquet de cartes et essaie le plus rapidement possible de constituer des paires. Sous la pression du temps, ce n'est pas toujours facile. Par exemple, je vois une image de table de mixage, porte le numéro 2. Je vois également une image de baffle, portant le numéro 4. Je décide de faire une paire en les associant. Je mets donc de côté mes cartes 2 et 4. Puis je continue, je vois une image de maïs et une image de tomate. Les deux sont des aliments, je les associe et forme ainsi ma deuxième paire, ainsi de suite. Lorsque le sablier se termine, nous avons devant nous 5 paires plus une carte seule, puisqu'au départ il y en avait 11. Maintenant, les résultats. Le plus jeune commence et dévoile sa première paire. Il explique pourquoi il a fait cette association et demande autour de la table qui a formé cette même paire. Tous ceux qui ont fait la même association lèvent la main et on note les points sur la fiche de score. 4 personnes ont formé la même paire. Chaque joueur concerné marque 4 points sur sa fiche. Puis on procède de même pour la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, en prenant soin de bien noter les scores entre chaque révélation. Attention, si personne autour de moi n'a formé la même paire que moi, je marque 0 point. Une fois que tous les joueurs ont annoncé toutes leurs paires, il reste une seule carte à chaque joueur. C'est la 11e, celle qu'on va appeler la pomme pourrie. Si plusieurs joueurs révèlent la même pomme pourrie, cela leur apportera le double de points. Imaginons que ma pomme pourrie soit le numéro 7 et que nous soyons 3 à avoir la même. Nous allons donc marquer tous les 3 2 points. À la fin de cette première manche, chacun additionne sur sa fiche les points obtenus. Et nous voilà prêts pour la seconde manche. On défausse alors les 11 images pour les remplacer par de nouvelles. Celui qui obtient le plus gros score à l'issue de la quatrième et dernière manche gagne la partie. Voilà donc un petit jeu d'association et d'ambiance qui plaît beaucoup. La phase de révélation peut être très drôle, surtout au moment où l'on explique pourquoi on a associé telle et telle image, certains esprits pouvant en s'avérer tordus. J'ai même entendu au cours d'une partie associer une langouste et une mouche. Et l'explication, vous me direz ? Eh bien, une langouste, ça ne sent pas bon et ça attire les mouches. Chacun fait comme il veut. Voilà, je vous ai présenté ce jeu, qui perd gagne. Maintenant, c'est à vous. Prêt ? Jouez !
Vous allez entendre un morceau de l'album « Un primate » de Romain Baudouin avec le titre « Lue » qui signifie « lune ».
Thank you.
Vous êtes sur Radio MDM 93.8 avec l'équipe des médiathèques Chalosse-sur-Saon.
Les animations.
La médiathèque d'Ajetmo accueille dans le cadre de ses animations autour du patrimoine local un musicien qui défend le patrimoine musical gascon depuis longtemps. Cet artiste, c'est Romain Baudouin. Son instrument de prédilection, la vielle à roue, instrument typique de la musique traditionnelle gasconne. Au départ, Romain Baudouin est issu d'une famille de musiciens traditionnels gascons. Mais c'est la guitare électrique qui est son premier instrument. C'est seulement vers l'âge de 20 ans qu'il se met à la vielle à roue pour finalement en faire son instrument principal. En parallèle de cela, il a monté le groupe Artus il y a une quinzaine d'années pour développer une musique radicale autour du patrimoine culturel immatériel gascon. Puis le groupe Artus a créé le label et le studio Pagans, ainsi que la boîte de production Art Brut, basée à Luc de Béarn. En 2014, Romain Baudouin se lance dans un projet solo avec la fabrication d'un instrument hybride, une vielle à roue électro-acoustique agrémentée d'un manche de guitare électrique. Il a appelé cela le Torumborum, chaos en gascon. Associé à une grosse caisse, il projette bourdons lancinants, crissements métalliques et spirales mélodiques en un rock primitif. Romain Baudouin sera en concert acoustique à la médiathèque d'Ajetmo ce vendredi 8 novembre à 19h. L'entrée est libre, soyez curieux et venez découvrir ce musicien et son instrument atypique. Donc je vous propose un extrait tout de suite, il s'agit du titre « Aqueras » de l'album « Un primate ».
Régulièrement, les médiathèques proposent des séances d'initiation au numérique. À Saint-Sevé, ces séances ont lieu soit sous forme de cours en petits groupes, soit sous forme d'aides ponctuelles en fonction des questions de chacun. En plus de ces actions, une fois par an, une journée d'animation a lieu sur un sujet spécifique, bien entendu toujours autour du numérique. L'année dernière, les participants ont pu utiliser des imprimantes 3D et découvrir leurs nombreux avantages. Cette année, pour coller à l'actualité, l'animation portera sur les fake news et les théories du complot. Elle aura lieu le vendredi 16 novembre. En fait, beaucoup de gens ont entendu le terme de fake news, mais sans savoir exactement ce qu'il recouvre. Certains s'en moquent, d'autres pensent qu'ils ne peuvent pas être concernés. Il y a ceux qui sont sûrs qu'il est impossible de les tromper. J'entends souvent « Oh, ça c'est pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux » ou encore « C'est pour ceux qui passent leur temps sur Internet, moi ça ne me concerne pas ». Mais en réalité, les fake news sont partout. On en entend du matin au soir en allant chercher son pain, en écoutant la télé ou la radio. Sauf la radio MDM, bien entendu.
Alors parfois, ce n'est pas très grave, ça peut même être plutôt marrant. Mais parfois aussi, les fake news vont modifier la perception qu'ont les gens de tel ou tel événement. Ça peut aller carrément jusqu'à influencer l'opinion publique. Et comme si ça ne suffisait pas, on voit aussi proliférer les théories du complot. Il faut absolument apprendre à les décrypter et à reconnaître les mécanismes qui sont mis en œuvre, à différencier ce qui relève d'une info sûre et vérifiée et ce qui relève d'une rumeur donnée par Monsieur Tout-le-Monde. Les ateliers seront divisés en plusieurs temps forts. D'abord, un état des lieux sur notre rapport à l'information en 2019, sur ce qu'est un média, comment les médias ont évolué, etc. Un deuxième temps portera plus précisément sur les fake news, c'est-à-dire les fausses informations. Le but, c'est d'avoir une vraie valise à outils pour décrypter l'information. Et pour finir, les participants pourront créer leur propre théorie du complot à travers un atelier radio. La journée sera animée par l'ASMALA, une association de Saint-Julien-en-Born qui fait des ateliers d'éducation aux images, aux médias et au numérique dans toutes les Landes et plus loin encore en Aquitaine. Ces activités ont été créées par des équipes d'anciens journalistes ou de médias qui travaillent notamment pour Arte. L'animation se déroulera non pas à la médiathèque, mais à l'espace de coworking Le Neuf, qui met gratuitement à notre disposition ses locaux. Alors Le Neuf, ça se trouve dans la rue du Tribunal, c'est la petite rue qui va des Halles jusqu'à l'abbatiale. Bien entendu, tous ces détails seront rappelés lors de l'inscription qui est obligatoire. Alors surtout pensez à vous inscrire parce que c'est vraiment plus simple pour nous, d'autant que le nombre de places est limité. Et donc, eh ben, pour s'inscrire, eh bien, il suffit de passer à la médiathèque ou d'appeler au 05 58 76 35 23. Rendez-vous le 16 novembre à 14h.
Je vais vous présenter maintenant un autre projet toujours autour de la musique qui permettra au public de découvrir ou redécouvrir l'œuvre de Georges Brassens. Ce projet est porté en partenariat par la médiathèque d'Ajetmo, l'antenne Chalosse-Tursan du Conservatoire de musique des Landes, le collège d'Ajetmo et le groupe Demain la veille, qui est le dénominateur commun dans ce projet. En effet, ce groupe est un trio de trois amoureux de Brassens, composé de Mamak, Jean-Michel Martineau et Laurent Ferrage, qui ont revisité plusieurs de ses titres à leur manière. De là est né un spectacle, puis un album enregistré en public, qui s'intitule « Aux accords de Brassens ». Le projet a vu le jour lorsqu'ils nous ont contactés pour présenter leur spectacle à la médiathèque d'Ajetmo. Après discussion, est émergée l'idée de faire découvrir Brassens aux jeunes générations. Nous avons donc proposé une collaboration au Conservatoire de musique et aux professeurs de musique et français du collège pour un travail avec les élèves. Rencontre avec le trio, étude des textes des chansons, chants et orchestration, le tout pour une retransmission sur scène au mois de janvier. Ce temps fort autour de Brassens commencera dès ce mois de novembre avec une conférence musicale le jeudi 28 novembre à 18h30 à la médiathèque d'Ajetmo en compagnie d'Henri Paralieu, professeur d'histoire de la chanson française à l'unité du temps libre de Pau. Poésie, musique, tendresse, humour, amitié et autres grands thèmes seront évoqués. La soirée est ouverte à tous, l'entrée est libre. Je vous rappelle notre rendez-vous, jeudi 28 novembre à 18h30 à la médiathèque d'Ajetmo pour une conférence musicale autour de Georges Brassens. Je vous en reparlerai dans une prochaine émission, mais le retour du travail des élèves avec le trio se fera sur scène le vendredi 31 janvier à la salle de la Rotonde à Ajetmo. Zeste de culture, l'émission de l'équipe des médiathèques Chalosse-Tursan. On vous dit à bientôt sur Radio MDM 93.8.
Vous l'avez lu ?
Oui, il est disponible.
Vous en avez d'autres de cet auteur ?
Je cherche un jeu amusant.
J'ai beaucoup aimé ce livre.
Bonjour.
Je peux en prendre combien ?
Mais la règle est trop longue.
C'est un ami qui me l'a conseillé.
J'ai adoré ce film.
Ça se passe comment pour s'inscrire ?
Quand est-ce qu'il y aura une soirée jeu ?
C'est un jeu de rôle. Vous l'avez ?
Vous pouvez me le prolonger ?
C'est super tout ce que vous avez.
Il existe des jeux pour seniors ?